Alors une bourgeoisie, si je serai très bref, c'est une collectivité de droit public qui gère des biens, que ce soit des forêts, des pâturages, des prés ou éventuellement même des biens immobiliers.
Comment est-ce qu'on peut prétendre entrer dans une bourgeoisie ? Enfin, comment on fait pour entrer dans une bourgeoisie ?
Alors écoutez, il n'y a pas premièrement de base légale. Chaque bourgeoisie a ses propres critères pour admettre un ou une bourgeoisie nouvelle ou un nouveau bourgeois en fin de compte. Et c'est des informations qui ne sont pas, je dirais, publiques ou qui ne sont pas publiées. Comme je l'ai dit, donc c'est différent d'une bourgeoisie à l'autre.
Alors, quel est le rôle des bourgeoisies aujourd'hui et comment elles ont évolué à travers les décennies ?
Alors, je dirais que tout dépend des bourgeoisies. On a des petites bourgeoisies, des moyennes et des grandes. Donc, elles sont souvent propriétaires, comme je l'ai dit avant, de forêts, de pâturages, de biens immobiliers. Elles ont aussi des terres. Donc, quelque part, le rôle, je dirais, actuel, c'est de mettre souvent à disposition des biens qui sont des biens fonciers, à disposition des collectivités, je dirais, publiques, pour la construction d'habitations, pour des zones industrielles ou d'autres choses comme ça. Mais elles ont aussi, bien sûr, d'autres fonctions d'aide, de financement, de mise à disposition d'infrastructures pour la population, etc.
Et puis
pour être court.
Sur les dernières décennies, ça a évolué un petit peu comment ?
Mais je dirais, c'est surtout ça, c'est que peut-être avant, il y avait un certain cloisonnement entre une commune municipale et une commune bourgeoise, et on s'est rendu compte que chacun avait à y gagner, à s'entraider, et quelque part, souvent, je dirais que les bourgeoisies travaillent de manière très étroite avec les collectivités publiques.
Quels ont été les défis des bourgeoisies à travers les années, si on prend la région du francophone, du canton de Berne ?
Alors je dirais de nouveau, de manière tout à fait raccourcie, qu'en fait elles ont dû un petit peu se battre, parce qu'en fait c'était quelque chose qui était très important, je dirais, jusqu'au XVIIIe siècle. Donc il y a eu des aléas où certains ont voulu simplement les dissoudre ou les faire disparaître. Donc quelque part elles ont dû se battre, et il y a eu pas mal d'histoires, je dirais, dans la région pour les, à un moment donné, où elles ont été dissoutes après l'annexion de la région par la France. Après, elles ont été rétablies à partir de 1816. Et ensuite, en fait, il y a eu beaucoup de fois des débats jusqu'à présent pour savoir est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les fusionne avec les communes municipales ou est-ce qu'on les fait carrément disparaître, parce qu'il semblait que c'était quelque chose qui était un petit peu désuet dans la politique actuelle.
Ce numéro 109 dresse le portrait des bourgeoisies du Jura bernois, de Bienne et du canton du Jura. Est-ce qu'il y a de grosses différences, que ce soit une bourgeoisie du Jura bernois ou du Jura, par exemple ?
Alors, je dirais que les différences ne sont pas dues au canton en tant que tel, c'est surtout dû à la taille et la position d'une bourgeoisie. On a des grandes bourgeoisies, plutôt, je dirais, liées aux villes, donc aux communes municipales, je dirais, de Léman-Moutier. Pour parler du canton de Berne, la bourgeoisie de Berne est une bourgeoisie des plus importantes, je dirais même de Suisse. Donc, en fait, tout dépend de leur taille et aussi des biens qu'elles administrent et dont elles sont propriétaires.
Quel est le poids d'une bourgeoisie dans la vie de tous les jours et comment voyez-vous son évolution à l'avenir ?
Alors, pour parler du poids, je pense que leur poids est relativement important. Comme je l'ai déjà dit avant, ça dépend de leur taille et aussi des biens dont elles sont propriétaires. Mais je pense qu'on sous-estime leur importance. Voilà pour la première partie de la question. Et l'évolution dans le temps, je pense qu'elles sont amenées à mieux se mettre en avant, à mieux parler d'elles quelque part. Peut-être on en parlera un peu plus tard. On les connaît peu, ces bourgeoisies, en fin de compte, ou ceux qui sont bourgeois-bourgeoises les connaissent bien dans nos villages, peut-être, mais je dirais de manière générale, le citoyen connaît peu. Donc effectivement, leur évolution, je le vois plutôt dans le positif, et de se mettre en avant et de parler d'elles.
Dans une société dans laquelle on parle de plus en plus de fusion, est-ce que les bourgeoisies sont vouées à disparaître ?
Non, je ne pense pas, très honnêtement. Les gens que j'ai côtoyés depuis le début de la création de ce numéro, en 2015, ne m'ont pas tellement parlé de fusion. Donc je pense plutôt qu'elles sont amenées à perdurer. Peut-être que l'une ou l'autre très petite bourgeoisie pourrait être amenée à disparaître. Mais dans l'ensemble, je ne pense pas du tout.
On voit également qu'il y a certains ayants droit qui refusent des fusions pour ne pas perdre leur lieu d'origine, par exemple sur leur carte d'identité. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer ça ?
Moi, je pense que c'est tout à fait subjectif et c'est le cœur qui parle, très honnêtement, de ce que j'ai ressenti moi personnellement, moi n'étant pas du tout bourgeois, mais ayant côtoyé des gens qui sont dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment le cœur qui parle, tout simplement.
Finalement, quel est le lien qu'ont véritablement les Suisses avec leur commune bourgeoise ? Parce que pas tous les Suisses vivent dans leur commune bourgeoise, j'ai envie de dire.
Oui, mais je pense actuellement, la bourgeoisie en tant que telle n'est plus du tout importante en tant que telle. Pour le jeu, je parle bien du citoyen, de la personne qui habite, parce qu'on se déplace beaucoup, on passe d'un endroit à l'autre. C'est pas comme il y a à peu près, je dirais, un deux siècles où on était en fait bourgeois, parce qu'en fait on était habitant, et puis qu'il y avait très très peu de déplacements de personnes, tandis que là actuellement, je pense que les liens alors sont peut-être ténus. Les gens, le citoyen, je dirais ordinaire, ne se rend pas compte de l'importance des bourgeoisies. Et je pense que, comme je l'ai dit avant, elles sont méconnues. Elles auraient tout avantage à, je dirais, à bien faire, entre guillemets, de la publicité et à se faire valoir.
Et au niveau de cette publicité qu'elle va faire, est-ce qu'il y a peut-être des préjugés un peu à démonter ?
Peut-être. Il y a des bourgeoisies, vous le verrez lorsque vous lirez les portraits, qui ont été tout à fait franches dans toutes leurs informations. On a cherché donc les informations lorsqu'on a fait leurs portraits. D'autres ont été un peu plus chiches dans les informations. D'autres, on a bien senti qu'elles retenaient quelques informations. On pense toujours qu'il y a des grands privilèges, etc. Je dirais, sans entrer dans le détail, mais je pense que dans l'absolu, il y a... On n'a pas besoin d'avoir entre guillemets peur de ce côté un petit peu caché ou méconnu des bourgeois.
Ah, c'est pas comme la franc-maçonnerie où il y a une nébuleuse derrière.
Non, d'accord. Non, enfin, je le considère pas du tout comme ça, en tout cas personnellement.
Vous avez travaillé durant 2 ans sur ce livre.
Oui.
Qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou peut-être le plus surpris ?
Que dirais-je ? Je dirais la disparité ou la diversité des bourgeoisies, vraiment d'un bout à l'autre. Bon, j'ai travaillé sur celle entre Boncourt et puis Bienne, mais après, il y a tout le reste. Il y a toute celle du canton de Berne, depuis Berne jusque dans les Alpes, et il y a toutes les bourgeoisies dans les autres cantons. Donc, une grande, grande diversité au niveau des bourgeoisies, de ce qu'elles amènent à leur population et aux citoyens de leur localité.